Chapitre 2. J'attendais la réponse du seigneur Michelangelo Polizzi avec une impatience que je contenais mal. Je ne le tenais pas en place, je faisais des mouvements brusques, j'ouvrais, je fermais bruyamment mes livres. Il m'arriva un jour de culbuter du coude un tome du Moreri. Amilcar, qui se léchait, s'arrêta soudain et la patte par-dessus l'oreille me regarda d'un œil fâché. Était-ce donc à cette vie tumultueuse qu'il devait s'attendre sous mon toit? N'étions-nous pas tacitement convenus de mener une existence paisible? J'avais rompu le pacte. Mon pauvre compagnon, lui dis-je, je suis en proie à une passion violente qui m'agite et me mène. Les passions sont ennemies du repos, j'en conviens, mais sans elles, il n'y aurait ni industrie ni art en ce monde. Chacun sommeillerait nu sur un tas de fumier, et tu ne dormirais pas tout le jour, Amilcar, sur un coussin de soie, dans la cité des livres. Je n'exposais pas plus avant à Amilcar la théorie des passions, parce que ma gouvernante m'apporta une lettre. Elle était timbrée de Naples et disait « Illustrissime Seigneur, je possède en effet l'incomparable manuscrit de la légende dorée qui n'a point échappé à votre lucide attention. Des raisons capitales s'opposent impérieusement et tyranniquement à ce que je m'en dessaisisse pour un seul jour, pour une seule minute. Ce sera pour moi une joie et une gloire de vous le communiquer dans mon humble maison de Girgenti, laquelle sera embellie et illuminée par votre présence. C'est donc dans l'impatiente espérance de votre venue que j'ose me dire, seigneur académicien, votre humble et dévoué serviteur, Michelangelo Polizzi. Négociant en vin et archéologue à Girgenti, Sicilia. Eh bien, j'irai en Sicile. Extremum hunc retus ami concede laborem. 25 octobre 1869. Ma résolution étant prise et mes arrangements faits, il ne me restait plus qu'à avertir ma gouvernante. J'avoue que j'hésitais longtemps à lui annoncer mon départ. Je craignais ses remontrances, ses railleries, ses objurgations et ses larmes. « C'est une brave fille, me disais-je, elle m'est attachée. Elle va vouloir me retenir et Dieu sait que, quand elle veut quelque chose, les paroles, les gestes et les cris lui coûtent peu. En cette circonstance, elle appellera à son aide la concierge, le frotteur, la cardeuse de matelas et les 7 fils du fruitier. Ils se mettront tous à genoux en rond à mes pieds, ils pleureront, ils seront si laids que je leur céderai pour ne plus les voir. » Telles étaient les affreuses images, les songes de malade que la peur assemblait dans mon imagination. Oui, la peur féconde, comme dit le poète, enfantait ces monstres dans mon cerveau. Car, je le confesse, en ces pages intimes, j'ai peur de ma gouvernante. Je sais qu'elle sait que je suis faible, et cela m'ôte tout courage dans mes luttes avec elle. Ces luttes sont fréquentes et j'y succombe invariablement. Mais il fallait bien annoncer mon départ à Thérèse. Elle vint dans la bibliothèque avec une brassée de bois pour allumer un petit feu, une flambée, disait-elle. Car les matinées sont fraîches. Je l'observais du coin de l'œil tandis qu'elle était accroupie, la tête sous le tablier de la cheminée. Je ne sais d'où me vint alors mon courage, mais je n'hésitais pas. Je me levai et, me promenant de long en large dans la chambre, « À propos, dis-je d'un ton léger, avec cette crânerie particulière au poltron, à propos, Thérèse, je pars pour la Sicile. » Ayant parlé, j'attendis fort inquiet. Thérèse ne répondait pas. Sa tête et son vaste bonnet restaient enfouis dans la cheminée, et rien dans sa personne que j'observais ne trahissait la moindre émotion. Elle fourrait du petit bois sous les bûches, voilà tout. Enfin, je revis son visage. Il était calme, si calme que je m'en irritais. Vraiment, pensais-je, cette vieille fille n'a guère de cœur. Elle me laisse partir sans seulement dire « ah ». Est-ce donc si peu pour elle que l'absence de son vieux maître ? « Allez, monsieur, me dit-elle enfin, mais revenez à 6 heures. Nous avons aujourd'hui à dîner un plat qui n'attend pas. » Naples, 10 novembre 1869. Quattracaille vive magne lave a faccia. J'entends, mon ami, je suis pour 3 centimes, boire, manger et me laver le visage, le tout au moyen d'une tranche de ces pastèques que tu étales sur une petite table. Mais les préjugés occidentaux m'empêcheraient de goûter avec assez de candeur cette simple volupté. Et comment sucerais-je tes pastèques ? J'ai assez à faire de me tenir debout dans cette foule. Quelle nuit lumineuse et bruyante à Santa Lucia ! Les fruits s'élèvent en montagne dans les boutiques éclairées de falots multicolores. Sur les fourneaux, allumés en plein vent, l'eau fume dans les chaudrons et la friture chante dans les poêles. L'odeur des poissons frits et des viandes chaudes me chatouille le nez et me fait éternuer. Je m'aperçois, en cette circonstance, que mon mouchoir a quitté la poche de ma redingote. Je suis poussé, soulevé et viré dans tous les sens par le peuple le plus gai, le plus bavard, le plus vif et le plus adroit qu'on puisse imaginer. Et voici précisément une jeune commère qui, tandis que j'admire ses magnifiques cheveux noirs, m'envoie d'un coup de son épaule élastique et puissante à 3 pas en arrière, sans m'endommager, dans les bras d'un mangeur de macaroni qui me reçoit en souriant. Je suis à Naples. Comment j'y parvins avec quelques restes informes et mutilés de mes bagages, je ne puis le dire pour la raison que je ne le sais pas moi-même. J'ai voyagé dans un effarement perpétuel, et je crois bien que j'avais tantôt en cette ville claire la mine d'un hibou au soleil. Cette nuit, oh, c'est bien pis. Voulant observer les mœurs populaires, j'allais dans la Strada di Porto, où je suis présentement. Autour de moi, des groupes animés se pressent devant les boutiques des victuailles, et je flotte comme une épave au gré de ces flots vivants qui, quand ils submergent, caressent encore. Car ce peuple napolitain a dans sa vivacité je ne sais quoi de doux et de flatteur. Je ne suis point bousculé, je suis bercé. Et je pense que, à force de me balancer de ça de là, ces gens vont m'endormir debout. J'admire, en foulant les dalles de lave de la Strada, ces portefaix et ces pêcheurs qui vont, parlent, chantent, fument, gesticulent, se querellent et s'embrassent avec une étonnante rapidité. Ils vivent à la fois par tous les sens et, sages sans le savoir, mesurent leurs désirs à la brièveté de la vie. Je m'approchais d'un cabaret fort achalandé et je lus sur la porte ce quatrain en patois de Naples. Amici, allegre mangiamo e bevimo. Amis, mangeons et buvons joyeusement tant qu'il y a de l'huile dans la lampe. Qui sait si dans notre monde nous nous reverrons ? Qui sait si dans notre monde il y a une taverne ? Horace donnait de semblables conseils à ses amis. Vous les reçûtes, Postumus, vous les entendîtes, le Conoé, belle révoltée, qui vouliez savoir les secrets de l'avenir. Cet avenir est maintenant le passé, et nous le connaissons. En vérité, vous aviez bien tort de vous tourmenter pour si peu, et votre ami se montrait homme de sens en vous conseillant d'être sage et de filtrer vos vins grecs. sapias vina liques. C'est ainsi qu'une belle terre et qu'un ciel pur conseille les calmes voluptés. Mais il y a des âmes tourmentées d'un sublime mécontentement. Ce sont les plus nobles. Vous fûtes de celles-là, le Konoé, et venu sur le déclin de ma vie dans la ville où brilla votre beauté, je salue avec respect votre ombre mélancolique. Les âmes semblables à la vôtre qui parurent dans la chrétienté furent des âmes de saintes, et leurs miracles emplissent la légende dorée. Votre ami Horace a laissé une postérité moins généreuse, et je vois un de ses petits-fils, en la personne du cabaretier poète, qui présentement verse du vin dans les tasses sous son enseigne épicurienne. Et pourtant, la vie donne raison à l'ami Flaccus, et sa philosophie est la seule qui s'accommode au train des choses. Voyez-moi ce gaillard qui, appuyé à un treillis couvert de pampres, mange une glace en regardant les étoiles. Il ne se baisserait pas pour ramasser ce vieux manuscrit que je vais chercher à travers tant de fatigues. Et en vérité, l'homme est fait plutôt pour manger des glaces que pour compulser de vieux textes. Je continuais à errer autour des buveurs et des chanteurs. Il y avait des amoureux qui mordaient à de beaux fruits en se tenant par la taille. Il faut bien que l'homme soit naturellement mauvais, car toute cette joie étrangère m'attristait profondément. Cette foule était un goût si naïf de la vie que toutes mes pudeurs de vieux scribe s'en effarouchaient. Puis j'étais désespéré de ne rien comprendre aux paroles qui résonnaient dans l'air. C'était pour un philologue une humiliante épreuve. J'étais donc fort maussade quand quelques mots prononcés derrière moi me firent dresser l'oreille. Ce vieillard est certainement un Français, Dimitri. Son air embarrassé me fait peine. Voulez-vous lui parler? Il a un bon dos rond, ne trouvez-vous pas, Dimitri? Cela a été dit en français par une voix de femme. Il me fut assez désagréable tout d'abord de m'entendre traiter de vieillard. Toi, vieillard, à 62 ans. L'autre jour, sur le pont des Armes, mon collègue Perrault d'Avrignac me fit compliment de ma jeunesse, et il s'entend mieux en âge, apparemment, que cette jeune alouette qui chante sur mon dos, si toutefois les alouettes chantent la nuit. « Mon dos est rond, dit-elle. Ah, j'en avais quelques soupçons, mais je n'en crois plus rien depuis que c'est la vie d'une oiselle. Je me tournerai certes pas la tête pour voir qui a parlé. Je suis sûr que c'est une jolie femme. Pourquoi? Parce que la voix des femmes qui sont belles ou le furent, qui plaisent ou qui plurent, peut seule avoir cette abondance d'inflexions heureuses et le son argentin qui est un rire encore. De la bouche d'une laide coulera peut-être une parole plus suave et plus mélodieuse, mais non point certes aussi vive, ni d'un tel gazouillis. Ces idées se formèrent dans mon esprit en moins d'une seconde. Et tout aussitôt, pour fuir ces deux inconnus, je me jetai dans le plus épais de la foule napolitaine et enfilai un vicoletto tortueux qu'éclairait seulement une lampe allumée devant la niche d'une madone. Là, songeant plus à loisir, je reconnus que cette jolie femme, assurément elle était jolie, avait exprimé à mon égard une pensée bienveillante qui méritait ma reconnaissance. Ce vieillard est certainement un Français, Dimitri. Son air embarrassé me fait peine. Voulez-vous lui parler? Il a un bon dos rond, ne trouvez-vous pas, Dimitri? En entendant ces paroles gracieuses, je ne devais pas prendre une fuite soudaine. Il me convenait bien plutôt d'aborder de façon courtoise la dame au parler clair, de m'incliner devant elle et de lui tenir ce langage. Madame, j'ai entendu malgré moi ce que vous venez de dire. Vous vouliez rendre un bon office à un pauvre vieillard. Bien, cela est fait, madame. Seul le son d'une voix française me fait un plaisir dont je vous remercie. Assurément, je lui devais adresser ces paroles ou d'autres semblables. Sans doute elle est française, car sa voix est française. La voix des dames de France est la plus agréable du monde. Comme nous, les étrangers en éprouvent le charme, Philippe de Bergane a dit en 1483 de Jeanne la Pucelle, son langage était doux comme celui des femmes de son pays. Le compagnon à qui elle parlait s'appelle Dimitri. Sans doute il est russe. Ce sont des gens riches qui promènent leur ennui par le monde. Il faut plaindre les riches. Leurs biens les environnent et ne pénètrent pas. Ils sont pauvres et dénués au-dedans d'eux-mêmes. La misère des riches est lamentable. Au bout de ces réflexions, je me trouvais dans une venelle, ou pour parler napolitain, dans un sottoportico qui cheminait sous des arches si nombreuses et sous des balcons d'une telle saillie qu'aucune lueur du ciel n'y descendait. J'étais perdu et condamné selon toute apparence à chercher mon chemin toute la nuit. Quant à le demander, il m'eût fallu pour cela rencontrer un visage humain, et je désespérais d'en voir un. Dans mon désespoir, donc, je pris une rue au hasard, une rue où, pour mieux dire, un affreux coupe-gorge. C'en avait tout l'air, et c'en était un, car j'y étais engagé depuis quelques minutes, quand je vis deux hommes qui jouaient du couteau. Ils s'attaquaient de la langue plus encore que de la lame, et je compris aux injures qu'ils échangeaient que c'était deux amoureux. J'enfilais prudemment une ruelle voisine, pendant que ces braves gens continuaient à s'occuper de leur affaire, sans se soucier le moins du monde des miennes. Je cheminais quelque temps à l'aventure, et m'assis découragé sur un banc de pierre, où je me lamentais d'avoir fui si éperdument et par tant de détours Dimitri et sa compagne à la voix claire. « Bonjour, signor !» « Revenez-vous de San Carlo? Avez-vous entendu la diva? Il n'y a qu'à Naples qu'on chante comme elle. » Je levai la tête et reconnus mon hôte. J'étais assis contre la façade de mon hôtel, sous ma propre fenêtre. Monte Allegro, 30 novembre 1869. Nous nous reposions, moi et mes guides et leurs mules, sur la route de Sciacca à Girgenti, dans une auberge du pauvre village de Monte Allegro, dont les habitants, consumés par la malaria, grelottent au soleil. Mais ce sont des Grecs encore, et leur gaieté résiste à tout. Quelques-uns d'entre eux m'entouraient l'auberge avec une curiosité souriante. Un comte, si j'avais su le rencontrer, hein, leur eût fait oublier les maux de la vie. Ils avaient l'air intelligents, et les femmes, bien que hâlées et flétries, portaient avec grâce un long manteau noir. Je voyais devant moi des ruines rongées par le vent de la mer, et sur lesquelles l'herbe même ne croît pas. La morne tristesse du désert règne sur cette terre aride, dont le sein gercé nourrit à peine quelques mimosas dépouillés, des cactus et des palmiers nains. À 20 pas de moi, le long d'une ravine, des cailloux blanchissaient comme une traînée d'ossements. Mon guide m'apprit que c'était un ruisseau. J'étais depuis 15 jours en Sicile. Entré dans cette baie de la Palerme, qui s'ouvre entre les deux bases arides et puissantes du Pellegrino et de Catalfano, et qui se creuse le long de la Conque d'Or, pleine de myrtes et d'orangers, je ressentis une telle admiration que je résolus de visiter cette île, si noble par ses souvenirs et si belle par les lignes de ses collines. vieux pèlerin blanchi dans l'Occident barbare, j'osais m'aventurer sur cette terre classique, et m'arrangeant avec un guide, j'allais de Palerme à Trapani, de Trapani à Selinunte, de Selinunte à Sciacca, que j'ai quitté ce matin pour me rendre à Girgenti, où je dois trouver le manuscrit de Jean Toumouillet. Les belles choses que j'ai vues sont si présentes à mon esprit que je considère comme une vaine fatigue le soin de les décrire. Pourquoi gâter mon voyage en amassant des notes? Les amants qui aiment bien n'écrivent pas leur bonheur. Tout à la mélancolie du présent et à la poésie du passé, l'âme ornée de belles images et les yeux pleins de lignes harmonieuses et pures, je goûtais dans l'auberge de Monte Allegro l'épaisse rosée d'un vin de feu, quand je vis entrer dans la salle une belle jeune femme, coiffée d'un chapeau de paille et vêtue d'une robe de foulard écru. Sa chevelure était sombre, son regard noir et brillant. À sa façon de marcher, je la reconnus pour une Parisienne. Elle s'assit. L'hôte posa près d'elle un verre d'eau fraîche avec un bouquet de roses. M'étant levé dès sa venue, je m'écartai un peu de la table par discrétion et fis mine d'examiner les images pieuses accrochées au mur. Je m'aperçus fort bien qu'alors, me voyant de dos, elle fit un petit mouvement de surprise. Je m'approchai de la fenêtre et regardai passer les carrioles peintes sur le chemin pierreux bordé de cactus et de figuiers de Barbarie. Tandis qu'elle buvait de l'eau glacée, je regardais le ciel. En goûtant Sicile une volupté inexprimable, à boire de l'eau fraîche et à respirer le jour. Je murmurais au-dedans de moi-même le vers du poète athénien, ô sainte lumière, œil du jour d'or. Cependant, la dame française m'observait avec une curiosité singulière, et bien que je me défendisse de la regarder plus qu'il n'était convenable, je sentais ses yeux sur moi. J'ai le don, paraît-il, de deviner les regards qui m'atteignent sans rencontrer les miens. Beaucoup de gens croient posséder aussi cette faculté mystérieuse. Mais en réalité, il n'y a point de mystère et nous sommes avertis par quelque indice si léger qu'il nous échappe. Il n'est pas impossible que j'aie vu les beaux yeux de cette dame reflétés dans les vitres de la fenêtre. Quand je me retournai vers elle, nos regards se rencontrèrent. Une poule noire vint picorer dans la chambre mal balayée. « Tu veux du pain, sorcière ?» dit la jeune femme en lui jetant des miettes qui restaient sur la table. Je reconnus la voix que j'avais entendue la nuit à Santa Lucia. « Excusez, madame, dis-je aussitôt, bien qu'inconnu de vous, je dois acquitter un devoir en vous remerciant de la sollicitude que vous a inspiré un vieux compatriote errant sur le tard dans les rues de Naples. « Vous me reconnaissez, monsieur, répondit-elle, mais je vous reconnais aussi. À mon dos, madame? Ah, vous avez entendu quand j'ai dit à mon mari que vous aviez le dos bon. Cela ne peut pas vous déplaire. Oh, je serais désolé de vous avoir fâché. Oh, vous m'avez flatté, au contraire, madame. » Et votre observation me semble, tout au moins dans son principe, juste et profonde. La physionomie n'est pas que dans les traits du visage. Il y a des mains spirituelles, il y a des mains sans imagination. Il y a des genoux hypocrites, des coudes égoïstes, des épaules arrogantes et de bons dos. C'est vrai, me dit-elle, mais je vous reconnais le visage. Nous nous étions déjà rencontrés auparavant, en Italie ou ailleurs, je ne sais plus. Le prince et moi, nous voyageons beaucoup. Je ne crois pas avoir jamais eu l'heureuse fortune de vous rencontrer, madame, lui répondis-je. Je suis un vieux solitaire, j'ai passé ma vie sur des livres et n'ai guère voyagé. Vous l'avez vu à mon embarras qui vous a fait pitié. Je regrette d'avoir mené une vie recluse et sédentaire. On apprend sans doute quelque chose dans les livres, mais on apprend beaucoup plus en voyant du pays. Vous êtes parisien ?
Oui, madame, j'habite depuis 40 ans, la même maison, et je n'en sors guère.
Il est vrai que cette maison est située sur le bord de la Seine, dans le lieu le plus illustre et le plus beau du monde. Je vois de ma fenêtre les Tuileries et le Louvre, le Pont Neuf, les tours de Notre-Dame, les tourelles du Palais de Justice et la flèche de la Sainte-Chapelle. Toutes ces pierres parlent, elles me content la prodigieuse histoire des Français. À ce discours, la jeune femme semblait émerveillée. Ah, votre appartement est sur le quai ? Me dit-elle vivement.
Sur le quai Malaquais, lui répondis-je, au 3e étage, dans la maison du marchand de gravures.
Je me nomme Sylvestre Bonnard. Mon nom est peu connu, mais c'est celui d'un membre de l'Institut, et c'est assez pour moi que mes amis ne l'oublient pas.
Elle me regarda avec une expression extraordinaire de surprise, d'intérêt, de mélancolie et d'attendrissement. Je ne pouvais concevoir qu'un si simple récit pût donner à cette jeune inconnue des émotions si diverses et si vives. J'attendais qu'elle expliquât sa surprise, mais un colosse silencieux, doux et triste, entra dans la salle.
« Mon mari, me dit-elle, le prince Trepoff. » Et me désignant à lui, « Monsieur Sylvestre Bonnard, membre de l'Institut de France. »
Le prince salua des épaules. Il les avait hautes, larges et mornes.
« Ben, cher ami, dit-il, je suis désolé de vous arracher à la conversation de Monsieur Sylvestre Bonnard, mais la voiture est attelée et il faut que nous arrivions à Mello avant la nuit. »
Elle se leva, prit les roses que son hôte lui avait offertes et sortit de l'auberge. Je la suivis, tandis que le prince surveillait l'attelage des mulets et éprouvait la solidité des sangles et des courroies. Demeurée sous la treille, elle me dit en souriant « Nous allons à Mello, c'est un horrible village à 6 lieues de Girgenti, et vous ne devineriez jamais pourquoi nous y allons. » Non, n'essayez pas. Nous allons chercher une boîte d'allumettes. Dimitri collectionne les boîtes d'allumettes. Il a essayé de toutes les collections, les colliers de chien, les boutons d'uniforme, les timbres-poste. Mais il n'y a plus que les boîtes d'allumettes qui l'intéressent. Les petites boîtes en carton avec des chromos. Nous avons déjà réuni 5214 types différents. Il y en a qui nous ont donné une peine affreuse à trouver. Ainsi, nous savions qu'on avait fait un Naples avec les portraits de Mazzini et de Garibaldi et que la police avait saisi les boîtes et emprisonné le fabricant. À force de chercher, de demander, nous avons trouvé une de ces boîtes chez un comptadin qui nous l'a vendue sans lire et nous a dénoncé à la police. Les sbires visitèrent nos bagages, ils ne trouvèrent pas la boîte, mais ils emportèrent mes bijoux. Alors j'ai pris goût à cette collection. Nous irons l'été en Suède pour compléter nos séries. J'éprouvais, dois-je le dire, quelques pitiés sympathiques pour ces opiniâtres collectionneurs. Sans doute j'eusse préféré voir M. et Mme Trepoff recueillir en Sicile des marbres antiques, des vases peints ou des médailles. J'eusse aimé les voir occuper des ruines d'Agrigente et des traditions poétiques de l'Eryx, mais enfin, ils faisaient une collection. Ils étaient de la confrérie, et pouvais-je les railler, sans me railler un peu moi-même.
« Ah, vous savez maintenant, ajouta-t-elle, pourquoi nous voyageons dans cet affreux pays ?
Ah, ce coup m'a sympathie, c'est ça. Je ressentis quelque indignation. »
« Ce pays n'est pas affreux, madame, répondis-je. Cette terre est une terre de gloire.
La beauté est si grande et si auguste chose que les siècles de barbarie ne peuvent l'effacer à ce point qu'il n'en reste des vestiges adorables. La majesté de l'antique Cérès plane encore sur ses collines arides, et la muse grecque, qui fit résonner de ses accents divins Arétus et la Ménale, chante encore à mes oreilles sur la montagne dénudée dans la source tarie. Oui, madame, au dernier jour de la terre, quand notre globe inhabité, comme aujourd'hui la lune, roulera dans l'espace son cadavre blême, le sol qui porte les ruines de Célinonte gardera dans la mort universelle les signes de la beauté, et alors, du moins, il n'y aura plus de bouche frivole pour blasphémer ses grandeurs solitaires. » À peine eus-je prononcé ces paroles que j'en sentis la sottise. « Bonheur, me dis-je, un vieil homme qui, comme toi, consuma sa vie sur les livres, ne sait pas converser avec les femmes. Heureusement pour moi, madame Trepoff n'avait pas plus compris mon discours que suscitait été du grec. Elle me dit avec douceur, « Dimitri s'ennuie et moi je m'ennuie. Nous avons les boîtes d'allumettes, mais on se lasse même des boîtes d'allumettes. » Autrefois, j'avais des ennuis et je ne m'ennuyais pas. Les ennuis, c'est une grande distraction. Attendri par la misère morale de cette jolie personne, madame, lui dis-je, je vous plains de n'avoir pas un enfant. Si vous en aviez un, le but de votre vie vous apparaîtrait et vos pensées seraient en même temps plus graves et plus consolantes. « Bon, j'ai un fils, » me répondit-elle. « Il est grand, mon Georges, c'est un homme, il a 8 ans. Je l'aime autant que quand il était tout petit, mais ce n'est plus la même chose. » Elle me tendit une rose de sa gerbe, sourit, et me dit en montant dans sa voiture, « Vous ne pouvez pas savoir, monsieur Bonnard, la joie que j'ai eue de vous voir. Je compte bien vous retrouver à Girgenti. » Girgenti, même jour. Je m'arrangeai de mon mieux dans ma lettica. La lettica est une voiture sans roues, ou si l'on veut une litière, une chaise portée par 2 mains, l'une à l'avant et l'autre à l'arrière. L'usage en est ancien. J'ai vu parfois de ces litières figurer dans des manuscrits du XIVe siècle. Je ne savais pas alors qu'une litière toute semblable me porterait un jour de Monte Allegro al Girgenti. Il ne faut jurer de rien. 3 heures durant, les mules firent sonner leurs clochettes et battirent de leurs sabots un sol calciné. Tandis qu'à mes côtés se déroulaient lentement, entre 2 haies d'aloès, les formes arides d'une nature africaine, je songeais aux manuscrits du clerc Jean Touillet, et je le désirais avec une ardeur candide dont j'étais moi-même attendri, tant j'y découvrais d'innocence enfantine et de puérilité touchante. Une odeur de rose, qui se fit mieux sentir vers le soir, me rappela madame Trepoff. Vénus commençait à briller dans le ciel. Je songeais. Madame Trepoff est une jolie personne, fort simple et tout près de la nature. Elle a des idées de chatte. Je n'ai pas découvert en elle la moindre de ces curiosités nobles qui agitent les âmes pensantes. Et pourtant, elle a exprimé à sa manière une pensée profonde. On ne s'ennuie pas quand on a des ennuis. Elle sait donc qu'en ce monde, l'inquiétude et la souffrance sont nos plus sûrs divertissements. Les grandes vérités ne se découvrent pas sans peine ni travail. Et par quels travaux la princesse Trepoff a-t-elle acquis celle-là? Girgenti, 1er décembre 1869. Je me réveillai le lendemain à Girgenti chez Gellias. Gellias fut un riche citoyen de l'ancienne Agrigente. Il était aussi célèbre par sa générosité que par sa magnificence, et il dota la ville d'un grand nombre d'hôtelleries gratuites. Gellias est mort depuis 1300 ans, et il n'y a plus aujourd'hui d'hospitalité gratuite chez les peuples policés. Mais le nom de Gellias est devenu celui d'un hôtel où, la fatigue aidant, je pus dormir ma nuit. La moderne Girgenti élève sur l'acropole de l'antique Agrigente ses maisons étroites et serrées que domine une sombre cathédrale espagnole. Je voyais de mes fenêtres, à mi-côte vers la mer, la blanche rangée des temples à demi détruits. Ces ruines seules ont quelque fraîcheur, tout le reste est aride. L'eau et la vie ont abandonné Agrigente. L'eau, la divine Nestis de l'Agrigentin Empédocle, est si nécessaire aux êtres animés que rien ne vit loin des fleuves et des fontaines. Mais le port de Girgenti, situé à 3 kilomètres de la ville, fait un grand commerce. C'est donc, me disais-je, dans cette ville morne, sur ce rocher abrupt, qu'est le manuscrit du clerc Jean tout mouillé. Je me fis indiquer la maison de M. Michelangelo Polizzi et je m'y rendis. Je trouvai M. Polizzi vêtu de jaune des pieds à la tête et faisant cuire des saucisses dans une poêle à frire. À ma vue, il lâcha la queue de la poêle, éleva les bras en l'air et poussa des cris d'enthousiasme. C'était un petit homme dont la face bourgeonnée, le nez busqué, le menton saillant et les yeux ronds formaient une physionomie remarquablement expressive. Il me traita d'excellence, dit qu'il marquerait ce jour d'un caillou blanc et me fit asseoir. La salle où nous étions procédait à la fois de la cuisine, du salon, de la chambre à coucher, de l'atelier et du cellier. On y voyait les fourneaux, un lit, des toiles, un chevalet, des bouteilles et des piments rouges. Je jetai un regard sur les tableaux qui couvraient les murs. « Les arts, ah, les arts !» s'écria M. Polizzi en levant de nouveau les bras vers le ciel. « Les arts, quelle dignité, quelle consolation! Je suis peintre, Excellence !» Et il me montra un Saint-François qui était inachevé et qui eût pu le rester sans dommage pour l'art et pour le culte. Il me fit voir ensuite quelques vieux tableaux d'un meilleur style, mais qui me semblèrent restaurés avec indiscrétion. « Je répare, me dit-il, les tableaux anciens. Oh, les vieux maîtres, quelle âme, quel génie !»« Ah, il est donc vrai, lui dis-je, vous êtes à la fois... peintre antiquaire et négociant en vin. Pour servir votre excellence, me répondit-il, j'ai en ce moment un zucco dont chaque goutte est une perle de feu. Je veux le faire goûter à votre seigneurie. J'estime les vins de Sicile, répondis-je, mais ce n'est pas pour des flacons que je viens vous voir, monsieur Polizzi. Lui. C'est donc pour les peintures. Vous êtes amateur. Oh, ma joie est immense de recevoir des amateurs de peinture. Je vais vous montrer le chef-d'œuvre de Monrealese. Oui, excellent, son chef-d'œuvre. Une adoration des bergers. C'est la perle de l'école sicilienne. Moi. Bon, je verrai cet ouvrage avec plaisir, mais parlons d'abord de ce qui m'amène. Ses petits yeux agiles s'arrêtèrent sur moi avec curiosité, et ce n'est pas sans une cruelle angoisse que je m'aperçus qu'il ne soupçonnait pas même l'objet de ma visite. Très troublé et sentant la sueur glacer mon front, je bredouillais pitoyablement une phrase qui revenait à peu près à celle-ci. Je viens exprès de Paris pour prendre communication d'un manuscrit de la légende dorée que vous m'aviez dit posséder. À ces mots, il leva les bras, ouvrit démesurément la bouche et les yeux, et donna les marques de la plus vive agitation. Oh, le manuscrit de la légende dorée. Oh, une perle, Excellence. Un rubis, un diamant. Deux miniatures si parfaites qu'elles font entrevoir le paradis. Oh, quelle suavité! Ces couleurs ravies à la corolle des fleurs font un miel pour les yeux. Giulio Clavio n'a pas fait mieux.
Montrez-le-moi, dis-je, sans pouvoir dissimuler ni mon inquiétude ni mon espoir.
Vous le montrez? S'écria Polizzi. Le puis-je, Excellence? Je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus.
Et il semblait vouloir s'arracher les cheveux. Ils se laisseraient bien tous tirer du cuir sans que je l'en empêchasse. Mais il s'arrêta de lui-même avant de s'être fait grand mal.
Comment, lui dis-je en colère, comment vous me faites venir de Paris à Girgenti pour me montrer un manuscrit et quand je viens vous dites que vous ne l'avez plus?
Mais c'est indigne, monsieur. Je laisse votre conduite à juger à tous les honnêtes gens.
Qui m'eût vu alors, se fut fait une idée assez juste d'un mouton enragé.
« c'est indigne !» répétai-je, en étendant mes bras qui tremblaient.
Michelangelo Polizzi se laissa tomber sur une chaise dans l'attitude d'un héros mourant. Je vis ses yeux se gonfler de larmes et ses cheveux, jusque-là flambant au-dessus de sa tête, tomber en désordre sur son front.
« Je suis père, Excellence, je suis père !» s'écria-t-il en joignant les mains. Et il ajouta avec des sanglots.
« Mon fils Raffaello, le fils de ma pauvre femme, dont je pleure depuis 15 ans la mort, Raffaello, Excellence, il a voulu s'établir à Paris. Il a loué une boutique rue Lafitte pour y vendre des curiosités. Alors je lui ai donné tout ce que je possédais de précieux. » Je lui ai donné mes plus belles majoliques, mes plus belles faïences d'Urbino, mes tableaux de maître, et quels tableaux, signor! Ils m'éblouissent encore quand je les revois en imagination, tous signés. Enfin, je lui ai donné le manuscrit de la légende dorée. Je lui aurais donné ma chair et mon sang, un fils unique, le fils de ma pauvre sainte femme.
Ainsi dis-je, pendant que sur votre foi, monsieur, j'allais chercher dans le fond de la Sicile le manuscrit du clerc tout mouillé, ce manuscrit est exposé dans une vitrine de la rue Lafitte, à 1500 mètres de chez moi.
Il y était, c'est la sainte vérité, me répondit monsieur Polizzi, soudainement rasséréné.
Et il y est encore, du moins je le pense, Excellence.
Il prit sur une tablette une carte qu'il m'offrit en me disant
« Voici l'adresse de mon fils. Faites-la connaître à vos amis et vous m'obligerez. Faïence et beaux étoffes tableaux y possèdent un assortiment complet d'objets d'art. Toute la robe est antique sur mon honneur. Allez le voir, il vous montrera le manuscrit de la légende dorée. » Deux miniatures d'une fraîcheur miraculeuse.
Je pris lâchement la carte qu'il me tendait. Cet homme abusa de ma faiblesse en m'invitant de nouveau à répandre dans les sociétés le nom de Raffaello Polizzi. J'avais déjà la main sur le bouton de la porte quand mon Sicilien me saisit le bras. Il avait l'air inspiré.
« Ah, Excellence, me dit-il, quelle cité que la nôtre, elle a donné naissance à Empédocle. Oh, Empédocle, quel grand homme et quel grand citoyen! Quelle audace de pensée, quelle vertu, quelle âme! Il y a là-bas, sur le port, une statue d'Empédocle, devant laquelle je me découvre chaque fois que je passe. Quand Raffaello, mon fils, fut sur le point de partir pour fonder un établissement d'antiquité dans la rue Lafitte à Paris, je l'ai conduit sur le port de notre ville
Et c'est au pied de la statue d'Empédocle que je lui ai donné ma bénédiction paternelle. « Souviens-toi d'Empédocle, lui ai-je dit. Ah, signor, c'est un nouvel Empédocle qu'il faudrait aujourd'hui à notre malheureuse patrie. Voulez-vous que je vous conduise à la statue, Excellence? Je vous servirai de guide pour visiter les ruines. Je vous montrerai le temple de Castor et Pollux, le temple de Jupiter Olympien, le temple de Junon Lucilienne, le puits antique, le tombeau de Théron et la porte d'or. Les guides des voyageurs sont tous des ânes. Moi, je suis un bon guide. Nous ferons des fouilles, si vous voulez, et nous découvrirons des trésors. J'ai la science, le don des fouilles. Je découvre des chefs-d'œuvre dans des excavations où les savants n'avaient rien trouvé. Je parvins à me dégager, mais il courut après moi, m'arrêta au pied de l'escalier et me dit à l'oreille « Excellence, écoutez, je vous conduirai dans la ville. Je vous ferai voir nos Girgentines, des Siciliennes, signor, la beauté antique. Et je vous montrerai de petites contadines. Vous voulez ?»« Oh, le diable vous emporte !» m'écriai-je indigné. Et je m'enfuis dans la rue en laissant les bras ouverts. Quand je fus hors de sa vue, je m'affaissai sur une pierre et me mis à songer, la tête dans mes mains. Était-ce donc, pensais-je, était-ce donc pour m'entendre faire de telles offres que j'étais venu en Sicile? Assurément, ce Polizzi était un coquin. Son fils en était un autre. Mais qu'avait-il tramé? Je ne pouvais le démêler. En attendant, étais-je assez humilié et contristé. Un pas léger dans un bruit d'étoffe me fit lever la tête et je vis venir à moi la princesse Trepov. Elle me retint sur mon banc, me prit la main et me dit avec douceur « Je vous cherchais, monsieur Sylvestre Bonnard. C'est une grande joie pour moi de vous avoir rencontré. Je voudrais vous laisser un souvenir agréable de notre rencontre. Vraiment, je le voudrais. » Et tandis qu'elle parlait, je crus voir sous son voile une larme et un sourire. Le prince s'approcha à son tour et nous couvrit de son ombre colossale. « Montrez, Dimitri, montrez à M. Bonnard votre butin précieux. » Et le géant docile me tendit une boîte d'allumettes, une vilaine petite boîte de carton ornée d'une tête bleue et rouge que l'inscription disait être celle d'Empédocle. « Je vois, madame, je vois, mais l'abominable Polizzi, chez qui je vous conseille de ne pas envoyer M. Trepov, m'a brouillé pour la vie avec Empédocle. Et ce portrait n'est pas de sorte à me rendre cet ancien philosophe plus agréable. C'est laid, fit-elle, mais c'est rare. Ces boîtes sont introuvables. Il faut les acheter sur place. À 7 heures du matin, Dimitri était à la fabrique. Vous voyez que nous n'avons pas perdu notre temps. « Je le vois certes bien, madame, » répondis-je d'un ton amer, « mais j'ai perdu le mien et je n'ai pas trouvé ce que j'étais venu chercher si loin. » Elle parut s'intéresser à ma déconvenue. « Vous avez un ennui ?» me demanda-t-elle vivement. « Puis-je vous aider en quelque chose ? Ne voulez-vous pas, monsieur, me conter votre peine ?» Je la lui contai. Mon récit fut long, mais elle en fut touchée, car elle me fit ensuite une quantité de questions minutieuses que je pris comme autant de témoignages d'intérêt. Elle voulut savoir le titre exact du manuscrit, son format, son aspect, son âge. Elle me demanda l'adresse de M. Raffaello Polizzi. Et je la lui donnai, faisant de la sorte, ô destin, ce que l'abominable Michelangelo Polizzi m'avait recommandé. Il est parfois difficile de s'arrêter. Je recommençais mes plaintes et mes imprécations. Cette fois, Madame Trepov se mit à rire. « Pourquoi riez-vous ? » lui dis-je. « Parce que je suis une méchante femme, » me répondit-elle. Et elle prit son vol, me laissant seul et consterné sur ma pierre. Paris, 8 décembre 1869. Mes malles encore pleines encombraient la salle à manger. J'étais assis devant une table chargée de ces bonnes choses que le pays de France produit pour les gourmets. Je mangeais d'un pâté de Chartres qui seul ferait aimer la patrie. Thérèse, debout devant moi, les mains jointes sur son tablier blanc, me regardait avec bienveillance, inquiétude et pitié. Amilcar se frottait contre mes jambes en bavant de joie. Ce vers d'un vieux poète me revint à la mémoire. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Eh bien, pensais-je, je me suis promené en vain. Je rentre les mains vides. Mais j'ai fait comme Ulysse un beau voyage. Ayant avalé ma dernière gorgée de café, je demandai à Thérèse ma canne et mon chapeau qu'elle me donna avec défiance. Elle redoutait un nouveau départ. Non, je la rassurai en l'invitant à tenir le dîner prêt pour 6 heures. Ce m'était déjà un sensible plaisir que d'aller le nez au vent par ces rues de Paris dont j'aime avec piété tous les pavés et toutes les pierres. Mais j'avais un but et j'allais droit rue Lafitte. Je ne tardais pas à y apercevoir la boutique de Raffaello Polizzi. Elle se faisait remarquer par un grand nombre de tableaux anciens qui, bien que signés de noms diversement illustres, présentaient toutefois entre eux un certain air de famille qui eût donné l'idée de la touchante fraternité des génies si elle n'avait pas attesté plus tôt les artifices du pinceau de M. Polizzi père. Enrichi de ses chefs-d'œuvre suspects, la boutique était égayée par de menus objets de curiosité, poignards, buires, hanapes, figulines, chaudrons de cuivre et plats hispano-arabes à reflets métalliques. Posé sur un fauteuil portugais en cuir armorié, un exemplaire des Heures de Simon Vostre était ouvert au feuillet qui porte une figure d'astrologie et un vieux Vitruve étalait sur un bahut ses magistrales gravures de cariatides et de télamon. Ce désordre apparent, qui cachait des dispositions savantes, ce faux hasard avec lequel les objets étaient jetés sous leur jour le plus favorable, aurait accru ma défiance, mais celle que m'inspirait le nom seul de Polizzi ne pouvait croître étant sans limite. Monsieur Raffaello, qui était là comme l'âme unique de toutes ces formes disparates et confuses, me parut un jeune homme flegmatique, une espèce d'anglais. Il ne montrait à aucun degré les facultés transcendantes que son père déployait dans la mimique et la déclamation. Je lui dis ce qui m'amenait. Il ouvrit une armoire et en tira un manuscrit qu'il posa sur une table où je pus l'examiner à loisir. Je n'éprouvais de ma vie une émotion semblable, si j'accepte quelques mois de ma jeunesse dont le souvenir du sais-je vivre 100 ans restera jusqu'à ma dernière heure aussi frais dans mon âme que le premier jour. C'était bien le manuscrit décrit par le bibliothécaire de Sir Thomas Raleigh. C'était bien le manuscrit du clerc Jean tout mouillé que je voyais, que je touchais. L'œuvre de Voragine y était sensiblement écourtée, mais cela m'importait peu. Les inestimables additions du moine de Saint-Germain-des-Prés y figuraient. C'était le grand point. Je voulus lire la légende de Saint-Doctre-Lové. Je ne pus. Je lisais toutes les lignes à la fois et ma tête faisait le bruit d'un moulin à eau la nuit dans la campagne. Je reconnus cependant que le manuscrit présentait les caractères de la plus indéniable authenticité. Les deux figures de la purification de la Vierge et du couronnement de Proserpine étaient lourdes de dessins et criardes de couleurs. Fort endommagée en 1824, comme l'attestait le catalogue de Sir Thomas, elles avaient repris depuis lors une fraîcheur nouvelle. Ce miracle ne me surprit guère, et que m'apportaient d'ailleurs les deux miniatures. Les légendes et le poème de Jean tout mouillé, c'était là le trésor. J'en prenais du regard tout ce que mes yeux pouvaient en contenir. J'affectais un air indifférent pour demander à M. Raffaello le prix de ce manuscrit, et je faisais des vœux, en attendant sa réponse, pour que ce prix ne dépassât pas mon épargne, déjà fort diminuée par un voyage coûteux. M. Paul Lizzi me répondit qu'il ne pouvait disposer de cet objet qui ne lui appartenait plus et qui devait être mis aux enchères à l'hôtel des ventes avec d'autres manuscrits et quelques incunables. Ce fut un rude coup pour moi. Je m'efforçais de me remettre et je pus répondre à peu près ceci. « Vous me surprenez, monsieur. Votre père, que je vis récemment à Girgenti, m'affirma que vous étiez possesseur de ce manuscrit. Il ne vous appartiendra pas de me faire douter de la parole de monsieur votre père. » Je l'étais en effet, me répondit Raffaello avec une simplicité parfaite, mais je ne le suis plus. J'ai vendu ce manuscrit précieux à un amateur qu'il m'est défendu de nommer et qui, pour des raisons que je dois taire, se voit obligé de vendre sa collection. Honoré de la confiance de mon client, je fus chargé par lui de dresser le catalogue et de diriger la vente qui aura lieu le 24 décembre prochain. Si vous voulez bien me donner votre adresse, j'aurai l'honneur de vous faire envoyer le catalogue qui est sous presse et dans lequel vous trouverez la légende dorée décrite sous le numéro 42. Je donnai mon adresse et sortis. La décente gravité du fils me déplaisait à l'égal de l'impudente mimique du père. Je détestais dans le fond de mon âme les ruses de ces vils trafiquants. Il était clair pour moi que les deux coquins s'entendaient et qu'ils avaient imaginé cette vente aux enchères par le ministère d'un huissier-priseur pour faire monter à un prix modéré, sans qu'on pût le leur reprocher, le manuscrit dont je souhaitais la possession. J'étais entre leurs mains. Les désirs, même les plus innocents, cela de mauvais, qu'ils nous soumettent à autrui et nous rendent dépendants. Cette réflexion me fut cruelle, mais elle ne m'ôta pas l'envie de posséder l'œuvre du clerc tout mouillé. Tandis que je méditais ainsi, pensant traverser la chaussée, je m'arrêtai pour laisser passer une voiture qui montait la rue que je descendais, et je reconnus, derrière la glace, Madame Trepoff, que deux chevaux noirs et un cocher fourré, comme un boyard, menaient grand train. Elle ne me vit pas. Puisse-t-elle, me dis-je, trouver ce qu'elle cherche, ou plutôt ce qui lui convient? C'est le souhait que je forme en retour du rire cruel avec lequel elle a accueilli ma déconvenue à Girgenti. Elle a une âme de mésange. Et triste, je gagnais les ponts. Éternellement indifférente, la nature amena sans hâte ni retard à la journée du 24 décembre. Je me rendis à l'hôtel Bullion et je pris place dans la salle numéro 4, au pied même du bureau où devait siéger le commissaire-priseur Boulouse et l'expert Polizzi. Je vis la salle se garnir peu à peu de figures à moi connues. Je serrai la main à quelques vieux libraires des quais. Mais la prudence que tout grand intérêt inspire aux plus confiants me fit taire la raison de ma présence insolite dans une des salles de l'hôtel Bullion. Par contre, je questionnais ces messieurs sur l'intérêt qu'ils pouvaient prendre à la vente Polizzi, et j'ai eu satisfaction de les entendre parler de tout autre article que du mien. La salle se remplit lentement d'intéressés et de curieux, et après une demi-heure de retard, le commissaire-priseur, armé de son marteau d'ivoire, le clerc chargé de bordereaux, l'expert avec son catalogue et le crieur muni d'une sébile fixée au bout d'une perche, prirent place sur l'estrade avec une solennité bourgeoise. Les garçons de salle se rangèrent au pied du bureau. L'officier ministériel, ayant annoncé que la vente était commencée, il se fit un demi-silence. On vendit d'abord à des prix médiocres une suite assez banale de précaspice avec miniature. Il est inutile de dire que ces miniatures étaient d'une entière fraîcheur. L'humilité des enchères encouragea la troupe des petits brocanteurs qui se mêlèrent à nous et devinrent familiers. Les chaudronniers vinrent à leur tour, en attendant que les portes d'une salle voisine fussent ouvertes, et les gaietés auvergnates couvrirent la voix du crieur. Un magnifique codex de la guerre des Juifs ranima l'attention. Il fut longtemps disputé. 5 000 francs, 5 000, annonçait le crieur au milieu du silence des chaudronniers, saisis d'admiration. 7 ou 8 antiphonaires nous firent retomber dans les bas prix. Une grosse revendeuse en taille et en cheveux, encouragée par la grandeur du livre et la modicité de l'enchère, se fit adjuger un de ses antiphonaires à 30 francs. Enfin, l'expert Polizzi mis sur table le numéro 42, la légende dorée, manuscrit français inédit, 2 superbes miniatures, 3 000 francs marchands. 3 000, 3 000, glapit le crieur. 3 000, reprit sèchement le commissaire-priseur. Mes tempes bourdonnaient. J'aperçus à travers un nuage une multitude de figures sérieuses qui se tournaient toutes vers le manuscrit qu'un garçon promenait ouvert dans la salle. 3 050, dis-je. Je fus effrayé du son de ma voix et confus de voir tous les visages se tourner vers moi. 3 050 à droite, dit le crieur relevant mon enchère. 3 100, reprit M. Polizzi. Alors commença un duel héroïque entre l'expert et moi. 3 500, 600, 700, 4 000, 4 500. Puis par un bond formidable, M. Polizzi sauta tout à coup à 6 000. 6 000 francs, c'était tout ce que j'avais à ma disposition. C'était pour moi le possible. Je risquais l'impossible. 6 100, m'écriai-je. Hélas, l'impossible même ne suffisait pas. 6 500, répliqua M. Polizzi avec calme. Je baissai la tête et restai la bouche pendante, n'osant dire ni oui ni non aux crières qui me criaient. 6 500 par mois? « Ce n'est pas vous à droite, c'est par moi. Pas d'erreur, 6 500. »« C'est bien vu, » reprit le commissaire-priseur. « 6 500, c'est bien vu, bien entendu. Le mot, il n'y a pas d'acquéreur au-dessus de 6 500 francs. » Un silence solennel régnait dans la salle. Tout à coup, je sentis mon crâne se fondre. C'était le marteau de l'officier ministériel qui, frappant un coup sec sur l'estrade, adjugeait irrévocablement le numéro 42 à M. Politzi. Aussitôt, la plume du clerc, courant sur le papier timbré, enregistra ce grand fait en une ligne. J'étais accablé. J'avais besoin d'air et de repos. Toutefois, je ne quittais pas ma place. Peu à peu, la réflexion me revint. L'espoir est tenace. J'eus un espoir. Je pensais que le nouvel acquéreur de la légende dorée pouvait être un bibliophile intelligent et libéral qui me donnerait communication du manuscrit et me permettrait même d'en publier les parties essentielles. C'est pourquoi, quand la vente fut finie, je m'approchai de l'expert qui descendait de l'estrade. « Monsieur l'expert, lui dis-je, avez-vous acheté le numéro 42 pour votre compte ou par commission ?»« Par commission, j'avais ordre de ne le lâcher à aucun prix. »« Pouvez-vous me dire le nom de l'acquéreur ?»« Non, je suis désolé de ne pouvoir vous satisfaire, mais cela m'est tout à fait interdit. » Je le quittai désespéré. 30 décembre 1869. Thérèse, vous n'entendez donc pas qu'on sonne depuis un quart d'heure à notre porte ? Thérèse ne me répond pas. Elle jase dans la loge du concierge. Cela est sûr. Est-ce ainsi que vous souhaitez la fête de votre vieux maître ? Vous m'abandonnez pendant la veillée de la Saint-Sylvestre ? Hélas ! S'il me vient en ce jour des souhaits affectueux, ils sortiront de terre, car tout ce qui m'aimait est depuis longtemps enseveli. Je ne sais trop ce que je fais en ce monde. On sonne encore. Oh, je quitte mon feu lentement, le dos rond, et je vais ouvrir ma porte. Que vois-je sur le palier ? Ce n'est pas l'amour mouillé, et je ne suis pas le vieil Anacréon, mais un joli petit garçon de 8 ou 9 ans. Il est tout seul. Il lève la tête pour me voir. Ses joues rougissent, mais son petit nez éventé vous a un air fripon. Il a des plumes à son chapeau et une grande fraise de dentelle sur sa blouse. Le joli petit bonhomme. Il tient à 2 bras un paquet aussi gros que lui et me demande si je suis M. Sylvestre Bonnard. Je lui réponds que oui. Il me remet le paquet, dit que c'est de la part de sa maman, et s'enfuit dans l'escalier. Je descends quelques marches, je me penche sur la rampe, et je vois le petit chapeau tournoyer dans la spirale de l'escalier, comme une plume au vent. « Bonsoir, mon petit garçon !» J'aurais été bien aise de lui parler, mais que lui aurais-je demandé ? Il n'est pas délicat de questionner les enfants. D'ailleurs, le paquet m'instruira mieux que le messager. C'est un très gros paquet, mais pas très lourd. Je défais dans ma bibliothèque les faveurs et le papier qui l'entoure, et je trouve quoi ? Une bûche, une maîtresse bûche, une vraie bûche de Noël, mais si légère que je la crois creuse. Je découvre en effet qu'elle est composée de 2 morceaux qui sont joints par des crochets et s'ouvrent sur charnières. Je tourne les crochets et me voilà inondé de violettes. Il en coule sur ma table, sur mes genoux, sur mon tapis. Il s'en glisse dans mon gilet, dans mes manches, j'en suis tout parfumé. Thérèse, Thérèse, apportez des vases pleins d'eau. Voici les violettes qui nous viennent de je ne sais quel pays ni de quelle main, mais sur la tête d'un pays parfumé et d'une main gracieuse. Vieille corneille, m'entendez-vous ? J'ai mis les violettes sur ma table qu'elles recouvrent tout entière de leur buisson parfumé. Il y a encore quelque chose dans la bûche, un livre, un manuscrit. C'est, je ne puis le croire, et ne puis en douter, c'est la légende dorée. c'est le manuscrit du clerc Jean tout mouillé. Voici la purification de la Vierge et le couronnement de Proserpine. Voici la légende de Sainte Roctovée. Je contemple cette relique parfumée de violette. Je tourne les feuillets entre lesquels de petites fleurs pâles se sont glissées. Et je trouve, contre la légende de Sainte Cécile, une carte portant ce nom, Princesse Trépoff. Princesse Trépoff, vous qui riez et pleuriez tour à tour si joliment sous le beau ciel d'Agrigente, vous qu'un vieillard morose croyait être une petite folle, je suis certain aujourd'hui de votre belle et rare folie, et le bonhomme que vous comblez de joie ira vous baiser les mains en vous rendant ce précieux manuscrit dont la science et lui vous devront une exacte et somptueuse publication. Thérèse entra en ce moment dans mon cabinet, elle était très agitée. « Monsieur, me cria-t-elle, devinez qui je viens de voir à l'instant dans une voiture armoriée qui stationnait devant la porte de la maison. « Madame Trépoff, parbleu, m'écriai-je. « Je connais pas de Madame Trépoff, me répondit ma gouvernante. La femme que je viens de voir est mise comme une duchesse avec un petit garçon qui a des dentelles sur toutes les coutures. Et c'est cette petite maman cocose à qui vous avez envoyé une bûche quand elle accouchait, il y a de cela 8 ans. Oh, je l'ai bien reconnue. C'est, demandai-je vivement, c'est, dites-vous, Madame Cocosse, la veuve du marchand d'almanach. C'est elle, monsieur. La portière était ouverte pendant que son petit garçon, qui sortait de cette maison-ci, remontait en voiture. Oh, la guerre changée. Pourquoi ces femmes-là vieilliraient-elles? Elles ne se donnent point de soucis. La cocosse est seulement un peu plus grasse que par le passé. Une femme qu'on a reçue ici par charité venirait-elle et ses velours et ses diamants dans une voiture armoriée? N'est-ce pas une honte? Thérèse, m'écriai-je d'une voix terrible, si vous me parlez de cette dame autrement qu'avec une profonde vénération, nous sommes brouillés ensemble. Apportez ici mes vases de Sèvres pour y mettre ces violettes qui donnent à la cité des livres une grâce qu'elle n'avait jamais eue. Pendant que Thérèse cherchait en soupirant les vases de Sèvres, je contemplais ces belles violettes éparses dont l'odeur répandait autour de moi comme le parfum d'une âme charmante, et je me demandais comment je n'avais pas reconnu Madame Cocosse en la princesse Trépoff. Mais ça avait été pour moi une vision bien rapide que celle de la jeune veuve me montrant son petit enfant nu dans l'escalier. J'avais plus de raisons de m'accuser d'avoir passé auprès d'une âme gracieuse et belle sans l'avoir devinée. « Bonheur, me disais-je, tu sais déchiffrer les vieux textes, mais tu ne sais pas lire dans le livre de la vie. Cette petite étourdie de Madame Trépoff, à qui tu n'accordais qu'une âme d'oiseau, a dépensé par reconnaissance plus de zèle et d'esprit que tu n'en as jamais mis à obliger personne. Elle t'a payé royalement la bûche des relevailles. Thérèse, vous étiez une pie, vous devenez une tortue. Venez donner de l'eau à ces violets de Parme. »